On découvre cette vue aérienne donc, du cortège parisien qui s'était lancé il y a précisément 1h30 maintenant, un parcours assez ramassé, très dense, avec des avenues quand même assez larges. Mais on voit qu'il y a une forte mobilisation aujourd'hui, c'est tout à fait visible instantanément. Et donc ces premiers fumigènes qui ornent le ciel parisien, et vous l'avez vu il y a un instant, on va y revenir dans un instant bien sûr avec nos invités, ces premiers échauffourées contre les forces de l'ordre. L'objectif aujourd'hui pour les syndicats, eh bien, c'est de bloquer. Mais le vrai objectif, c'est d'arriver à faire perdurer la mobilisation. Et là, rien n'est moins sûr. En tout cas, on en saura peut-être un petit peu plus avec l'intersyndicale qui se réunira à nouveau ce soir pour la suite à donner à ce mouvement. On va commenter toutes ces images et cette grosse journée qu'on a annoncée, qu'on a présentée comme un mardi noir avec un changement de plateau. Bonjour Jean Messia, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de 90 Minutes Info. Bonjour Louis Marguerite.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Saône-et-Loire. Et puis à vos côtés, Pascal Bito-Panelli, qui est expert en sécurité et qui a coutume de nous accompagner maintenant à peu près à chaque journée de mobilisation. Ces images-là qu'on a vues précédemment de forces de l'ordre qui sont en train de bloquer le boulevard de l'Observatoire pour tenter d'affronter les éléments perturbateurs de la manifestation, c'est vrai qu'on ne les avait pas vus depuis, grosso modo, le 19 janvier, je crois que c'était alors la première mobilisation. Le dénominateur commun, je dirais, c'est la densité. Parce qu'on se souvient que c'était une très forte mobilisation pour commencer. Aujourd'hui, les syndicats misent sur 2 millions de personnes. On verra si l'objectif est atteint en fin de journée, bien entendu. Mais dès lors qu'il y a plus de participants, des cortèges plus fournis, fatalement, forcément, on voit plus d'éléments perturbateurs parce qu'ils arrivent à se greffer à tout cela et à se forger un chemin, si j'ose dire.
C'est ça, absolument. C'est d'une grande logique. Plus on a du volume de la densité, plus il est facile pour des éléments ultra-radicalisés de pénétrer dans les groupes et de fermenter la tension, de développer les points de cristallisation et d'affrontement avec les forces de police. On voit qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, et c'était prévu, on s'y attendait. Des points de tension, mais avec, pour autant, pour le moment, une situation qui est maîtrisée.
Oui, alors ce sera peut-être sporadique, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça et là, on va voir apparaître des tensions avec plus ou moins de gravité. Il faudra évidemment surveiller la fin du cortège, c'est toujours là que les choses se tendent, se corsent un peu plus. Mais revenons quand même sur la doctrine qui a été mise en place depuis à peu près le début de cette mobilisation anti-réforme des retraites et qui, pour l'instant, a quand même porté ses fruits. C'est-à-dire qu'on a complètement changé de braquet avec Laurent Nunez maintenant à la houlette et force est de constater que ça a plutôt bien fonctionné.
Effectivement, on a un changement de doctrine, bon, toujours basé sur une théorie très simple depuis 2020, le nouveau schéma national du maintien de l'ordre, avec des éléments qui sont venus et qui ont changé un petit peu la donne, c'est-à-dire une co-gestion, une co-organisation de la manifestation, avec aujourd'hui à nouveau un retour du relationnel avec l'Hôtel de Ville, ce qui est très important, surtout avant de si grands événements. On ne peut pas concevoir qu'avant les Jeux Olympiques, la préfecture de police de Paris coupe les ponts avec, bien sûr, l'Hôtel de Ville. Par ailleurs, un maintien de l'ordre un peu différent. Le préfet Didier Lallement était un adepte d'une technique de maintien de l'ordre qui s'appelle l'interopérabilité dynamique. Aujourd'hui, on travaille de façon différente avec des éléments lourds, mais qui sont plus invisibles, qui sont plus, hors décor, mais qui interviennent avec une grande fulgurance et une grande efficacité en cas de montée de tension. Plus, naturellement, soulignons-le, vu que c'est extrêmement important, un gros travail des services d'ordre syndicaux qui permettent de canaliser et de contenir. Et jusque-là, ça fonctionne. Attention, on est sur du maintien de l'ordre qui est annoncé et qui est ordonné. Qu'en sera-t-il si on arrive sur du maintien de l'ordre qui est plus imprévu et où la situation passe en mode dégradé? Pour le moment, en tout état de cause, la méthode Nunez fonctionne parfaitement.
Alors, revenons à la mobilisation à proprement parler. Je le disais, Jean Messia, l'objectif, c'est d'arriver à bloquer le pays sans qu'on sache vraiment si La mobilisation qui était attendue, annoncée ce mardi noir, ce grand soir syndical, sera vraiment à l'arrivée au rendez-vous. Parce qu'il y a d'ores et déjà quelques disparités dans les chiffres. Alors certes, il y a des villes où on a battu des records. Je crois qu'à Nantes, notamment, il y avait 30 000 manifestants, ce qui est un record, nous disaient, nous confirmaient nos correspondants sur le terrain. Mais dans l'éducation nationale, quand on compare les chiffres donnés par... la préfecture et ceux donnés par les syndicats enseignants, on passe quand même du simple au double. C'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement s'il y a 60% d'enseignants qui sont en grève aujourd'hui ou plutôt de l'ordre de 32%. Ça fait quand même une sacrée différence. Pour vous, cette mobilisation, elle parviendra à ses fins à quel prix ? C'est quoi les ingrédients pour faire que ça va marcher et que ça peut éventuellement mettre le texte en péril ?
En fait, si vous voulez, il y a deux considérations qui me semblent devoir être analysées dans ce mouvement. La première considération est une considération d'agenda, une considération calendaire. Hein. C'est-à-dire que nous avons effectivement la marche du texte à l'Assemblée nationale, en tout cas au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, et nous avons effectivement la mobilisation sur le terrain. Le premier objectif est évidemment pour les syndicats et pour les opposants à la réforme de maintenir haletant le mouvement de telle sorte qu'il y ait un parallélisme entre le calendrier parlementaire et la poursuite de la mobilisation sur le terrain et dans la rue. Est-ce qu'ils vont réussir ? C'est la grande question. La deuxième considération, si vous voulez, elle est plus politique. Elle concerne effectivement la signification de ce mouvement, parce qu'à l'intérieur de ce mouvement, il y a, on va dire, deux motivations. La première motivation, c'est une opposition à la réforme des retraites stricto sensu. On l'a discuté ici, on a longuement analysé les causes, mais ça reste focalisé sur un refus de travailler jusqu'à 64 ans, sur un refus d'un certain nombre de choses, et puis les maladresses du gouvernement... sur la réforme, notamment la réforme à 1200 euros, etc., enfin, la retraite minimum à 1200 euros, la non-prise en compte véritablement de la pénibilité, etc. Mais derrière cette opposition à la réforme des retraites, il y a un parti, notamment la France Insoumise, qui entend instrumentaliser ce mouvement pour faire avancer son agenda révolutionnaire. C'est-à-dire, en gros, renverser la table... comment dirais-je, presque menacer aussi la démocratie, menacer le Parlement, intimider nos institutions en greffant sur un mouvement, une colère sociale, il faut bien dire légitime, eh bien quelque chose de beaucoup plus structurel, de beaucoup plus profond, visant à renverser une 5e République que par ailleurs ils n'ont jamais aimée pour une éventuelle 6e République dont personne ne connaît les contours. Voilà en gros l'analyse qu'on peut faire de la situation aujourd'hui.
Ça c'est vu du point de vue de la gauche, effectivement. J'aimerais qu'on retourne dans le cortège avant de continuer à analyser la suite de ce mouvement avec l'une de nos équipes, en l'occurrence Vincent Farandège, qui est quelque part dans le cortège. Vincent, on prend le pouls avec vous de ce qui se passe, de ce que vous entendez comme slogan, de ce que vous disent vos interlocuteurs. Qui sont-ils, ces Français qui sont venus crier leur colère ? Parce que je crois que c'est un peu le maître mot en ce moment, une espèce de colère qui s'agrège avec plusieurs composantes à cette colère. On pourra reparler évidemment de l'inflation aussi, mais là, on a bien senti que cet âge de départ à 64 ans, c'était l'élément majeur du blocage mental pour les Français.
Oui, c'est une colère assez globale. En tout cas, c'est ce que nous disent les gens que nous avons pu rencontrer ici. C'est vrai qu'on a rencontré des personnes de tous âges, vraiment des jeunes comme des moins jeunes. On a rencontré deux enseignantes, par exemple, une orthodontiste, également un chercheur. Tous ont ce même slogan, en tout cas cette même colère contre la réforme des retraites. Mais globalement, il faut savoir que ces gens-là, en tout cas ceux que nous avons interrogés, ce n'est pas leur première manifestation, évidemment, contre la réforme des retraites, mais globalement contre la politique d'Emmanuel Macron. Depuis que le président est au pouvoir, ce sont des personnes qui sont descendues dans la rue. Et c'est assez intéressant de voir que quand on leur parle, effectivement, il y a cette réforme des retraites là actuellement, mais il y a aussi l'inflation qui les inquiète et globalement toute la politique d'Emmanuel Macron. Je voulais juste vous parler de cette image que vous voyez actuellement. Nous sommes devant l'hôpital du Val-de-Grâce, ici en plein Paris. Et tout à l'heure, en tout cas, il y avait les infirmières qui étaient au balcon. balcon, le personnel hospitalier en tout cas, qui était au balcon de l'établissement, qui a été largement applaudi, dans une très bonne ambiance. Voilà, donc pour un petit peu le pouls au sein même de ce cortège. C'est vrai qu'il a des tensions en début de cortège, mais dans le cortège, tout se passe plutôt bien. Et c'est un fait assez rare d'ailleurs, les commerces globalement sont tous restés ouverts le long du cortège, en tout cas de ce que nous avons pu voir.
Merci beaucoup Vincent. Et puis deux salles, deux ambiances, parce que vous avez vu que sur la gauche de l'écran, on a revu des scènes hostiles avec des manifestants qui se sont regroupés, enfin des éléments disruptifs de cette manifestation. Voilà, des casseurs, des black blocs, des éléments perturbateurs qui sont en train, vous voyez, de saisir des parpaings, ce qu'ils trouvent, ce qu'ils ont à leur disposition, et qui les lancent contre les forces de l'ordre. Est-ce que Jeanne Cancard peut nous commenter cette image? Vous êtes vraiment en première loge.
Alors, Nelly, je vais vous dire, c'est un petit peu compliqué de parler à l'instant T, puisque...
Alors, on a un problème avec le son, donc on va régler ça et puis on vous retrouvera dans un moment. Ça vous inspire quoi, là, Pascal Bitopanis, qu'on voit? Parce que là, on voit des espèces de fumigènes. Qu'est-ce qu'ils ont dans les mains, là, les personnes habillées en noir qui sont en train de les lancer à l'adresse des policiers?
Écoutez, apparemment, ils ont des fumigènes, oui, tout à fait. On lance des pavés, bref, tout ce qu'on peut trouver, puisque logiquement... Vous savez que sur un parcours de manifestation, ce parcours a été préparé. Donc on essaye de donner le moins matériel offensif possible aux éléments radicaux. En tout état de cause, le mouvement se durcit, on le savait, et on aura des points d'accrochage, je pense, toute la manifestation, en voyant certains profils qui sont, à l'évidence, des gens qui font partie de groupes très radicalisés et qui sont venus pour... affronter non seulement les forces de police, mais tout ce qui sera symbole du capitalisme.
C'est assez conséquent quand même comme nombre. Là, on parle quand même de plus d'une centaine d'individus, on est d'accord?
C'est ça, d'une centaine. Il était prévu plusieurs centaines aujourd'hui, de toute façon, dans les analyses du renseignement.
Alors, je ne sais pas exactement où on est. Je ne sais pas si on peut retrouver également Jeanne Cancard, mais en tout cas, ils ont... à leur disposition des pavés. Je ne sais pas où ils les ont trouvés, s'ils les ont ramenés avec eux, s'ils les ont trouvés dans la rue. Moi, quand je me penche, généralement, j'ai du mal à trouver des pavés comme ça dans Paris. Mais en tout cas, ils sont équipés là, de projectiles. On voit même qu'ils ont des planches de bois ou des morceaux de palettes en bois qu'ils sont en train de diriger à l'adresse des forces de police qui, visiblement, sont en train de reculer. Mais enfin, voilà, il y a des charges, des contre-charges. C'est toujours un peu le cas lorsque cette tension est diffuse. Comme ceci, cette image, on va y rester dessus. On va faire commenter aussi nos invités. Je ne sais pas si Jeanne est là. On la reprend. Allez, Jeanne, on a rétabli la connexion. Racontez-nous ce que vous voyez.
Oui Nelly, je suis là. C'est un peu compliqué parfois de vous parler parce que vous savez, vous avez à la fois les forces de l'ordre pour disperser au maximum qui envoient les gaz lacrymogènes. Dans ce cas-là, c'est difficile de s'exprimer. Et puis surtout quand il y a des mouvements de foule comme ça, forcément, on se disperse, on se perd. Mais là, ce qu'on peut vous commenter, c'est l'image en ce moment que vous voyez en direct. Pour tout vous dire, c'est des tensions qui sont assez violentes auxquelles on vient d'assister puisque vous avez plusieurs centaines d'individus. C'est beaucoup, plusieurs centaines d'individus qui sont présents en ce moment dans le cortège, qui sont vêtus de noir et cagoulés et qui s'en prennent clairement aux forces de l'ordre. Alors pour répondre à votre question que j'entendais tout à l'heure en plateau, vous dites, moi j'avoue que quand je me balade dans la rue, j'ai pas forcément tendance à trouver comme ça du matériel urbain facilement. En fait, pour tout vous dire, comme vous pouvez peut-être le voir là sur l'image, en fait ce qu'il y a par terre, ce que vous voyez par terre, ce sont clairement des morceaux de pavés. En fait, ils décollent, ils arrivent à briser une partie du trottoir et à prendre ces pavés pour en faire des projectiles, comme vous le voyez là en ce moment en direct, avec donc ces individus qui lancent à la fois des bouteilles en verre, des pavés qui sont trouvés. Vous avez aussi des plaques d'égout là, en ce moment, ce que vous pouvez voir aussi à l'image, c'est des voitures qui sont garées ici et qui sont détériorées par ces individus. Ce que je peux vous dire, c'est que là, évidemment, la tension, elle est forte ici. Donc forcément, la tension est aussi concentrée ici, à cet endroit. Et c'est vraiment dommage, c'est ce que me disent. Ce sont les mots, c'est dommage. C'est ce que me disent les manifestants qui ont en quelque sorte l'impression de se faire voler leur moment, voler leur 7 mars, voler leur manifestation, leur journée de mobilisation par ces images qui, évidemment, seront diffusées et qu'on nous-mêmes, on commente en ce moment parce que c'est aussi une vérité, c'est aussi une réalité, une partie de cette manifestation. Même si on le rappelle, ce ne sont pas les manifestants qui, en ce moment, s'en prennent aux forces de l'ordre, ce sont clairement des personnes qui sont venues s'infiltrer ici dans le cortège pour s'en prendre aux forces de l'ordre. On l'entend, les chants qui sont criés à l'encontre des forces de l'ordre. Et puis là, en ce moment, vous voyez, c'est pas seulement les forces de l'ordre, c'est aussi les voitures des particuliers ici qui sont la cible de ces individus radicaux qui ont réussi à s'infiltrer dans le cortège. Et puis pour avoir fait ces dernières manifestations, eh bien on peut vous dire qu'en ce moment, les tensions qui éclatent sont particulièrement violentes et que les individus qui sont présents ici sont particulièrement nombreux.
Et alors là, on est en train d'assister à une autre scène qu'on doit aux images de Fabrice Elsner, j'imagine. On est carrément en train de monter une sorte de... Oui. De barricades de fortune avec des chaises, des poubelles, des scooters de ville. Et voilà, les vandales en action, en direct, sous vos yeux. Alors là, vraiment, on est dans un cas d'école, avec même des panneaux qui sont décollés. Qu'est-ce que ça vous inspire, Louis Marguerite ? J'imagine que vous trouvez ça déplorable, comme nous tous.
C'est déplorable, c'est lamentable, c'est triste, parce que moi, je comprends ce que les manifestants peuvent approuver, alors que dans leur immense majorité, ils sont venus... manifester leur opposition à la réforme de façon pacifique. On reviendra sur le fond, j'imagine.
Ils se font voler leur moment, là.
Ils se font voler leur moment. C'est absolument lamentable. Alors même, d'ailleurs, que toutes les manifestations s'étaient plutôt bien passées sur tout le territoire national. C'est le cas aussi dans ma circonscription. Quand on voit ces images, ça doit être d'ailleurs durement sanctionné. Hein. J'espère que les auteurs seront interpellés. On ne peut pas trop les reconnaître. Et moi, je leur pose la question. Qu'est-ce que vous allez dire au papa, la maman qui va chercher ses enfants après la crèche, après l'école, et alors qu'elle ne peut plus conduire, que tout a été fracturé, que tout a été abîmé. C'est de la dégradation gratuite, violente, extrêmement violente. Donc je vois évidemment très déplorable, et j'espère que les auteurs seront poursuivis et durement sanctionnés par la réglementation en vigueur.
C'est-à-dire que quand on voit ça quand même, on se dit, Éric de Rilmatin, on a du mal à savoir quelle cause ils défendent au juste. Quoi, hein. On a beau être anticapitaliste, on ne détruit pas ce que les autres ont gagné. Quoi.
C'est tout. Alors le problème, c'est qu'ils sont là pour se venger. C'est vrai que les banques sont les premières cibles en temps normal. Il y a même eu des banques qui ont été bétonnées, des distributeurs automatiques. Donc moi, j'ai honte de voir ces images. Quand on voit à l'étranger ces images aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas possible. Où est la France? Et j'encourage vraiment la police à réagir. Je les vois, là, ils sont en attente, mais ils devraient théoriquement charger, arrêter. Et puis qu'il y ait des condamnations derrière. On le sait bien, les sanctions pénales n'existent pas dans ces cas-là. On l'avait vu avec les gilets jaunes à l'époque. Ils étaient relâchés. Il y avait souvent même, d'ailleurs, il faut reconnaître des gens de bonne famille. Faut pas l'oublier, hein, des gens qui ont été retrouvés dans les black blocs, mais c'est une honte de laisser faire ça. Et je me mets du côté des manifestants, on leur vole leur événement qui était très calme, et ça détourne l'attention, et donc on sort complètement du cadre d'une manifestation légitime. Et voilà, les mots me manquent pour dénoncer le scandale aujourd'hui qu'on vit en France de laisser faire, laisser aller.
Et puis, Jean, on fait feu de tout bois là, on voit des jardinières, des tables, des brasseries qui ont eu le malheur de rester ouvertes en se disant bon. Bon, ça va peut-être bien se passer, peut-être qu'on récupérera un certain nombre de manifestants qui viendront prendre un petit café de manière bon enfant, comme on le disait tout à l'heure. Eh bien non, là, il n'en est rien. C'est en train de ressembler à une rue jonchée de déchets et de parpaings. Hein.
Oui, tout à fait. Enfin, ces gens qui sont de véritables criminels sont en train purement et simplement de défier la République. Parce que la République, ce n'est pas un concept gazeux et aérien, c'est un concept très concret. Lorsqu'on s'attaque à du mobilier urbain, à des voitures, même aux forces de l'ordre, on s'attaque à la République. Donc il faut que la République puisse avoir la main lourde à la fois pour arrêter ces gens et la rancœur aiguë ensuite pour les envoyer à l'ombre pendant longtemps ou en tout cas suffisamment longtemps pour leur faire passer l'envie de recommencer. Or le problème, si vous voulez, on retombe sur la fameuse chaîne pénale et ses dysfonctionnements. C'est que la police fait très souvent son travail en arrêtant et en appréhendant ces voyous. Mais une fois qu'ils arrivent devant les tribunaux et devant les magistrats, eh bien, soit on dit bah non, c'est pas possible de les reconnaître. Enfin bon, soit c'est des arguties juridiques, etc. Ce qui fait qu'en fait, ils ne sont que peu ou pas punis. Donc on est condamné effectivement à réagir de la même manière à chaque fois qu'il y a une manifestation, à déplorer à chaque fois la même chose. À regretter à chaque fois qu'il n'y ait pas de sanction pénale, qu'il n'y ait pas de peine de prison qui soit prononcée, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'il n'y a pas de sévérité et d'exemplarité dans le traitement de ces affaires, malheureusement, on continuera pendant très longtemps sur ces plateaux à les commenter.
On est là, boulevard de Port-Royal, c'est-à-dire en plein 5e arrondissement. C'est sur le parcours, en tout cas aux abords du parcours. Et vous voyez toujours ces policiers qui sont en train de bloquer la voie, qui attendent effectivement les ordres pour charger lorsqu'ils le jugeront nécessaire, opportun. Mais c'est vrai que là, il y a eu un certain nombre d'actes de vandalisme, Pascal Bito Panelli, qui moi me surprennent parce que vous dites, voilà, et Jeanne l'expliquait très bien, on prend des jardinières, on les décroche, on les dévisse finalement de leur lieu original, et puis on... Ils ont quoi ? Des pieds de biche et puis ils déterrent les pavés comme ça ? Ça suppose un certain nombre de matériel quand même.
Alors, ces groupes-là sont très organisés et sont des spécialistes de la guérilla urbaine et de la manifestation violente.
Donc déjà... Regardez, c'est ce médecin qui a été vandalisé, dont la voiture a été vandalisée. Voilà. Alors ça, c'est encore plus parlant et encore plus révoltant. Ce type est complètement désemparé parce que visiblement, il était là en intervention médicale. Il rentre dans sa voiture... Et il la découvre, pleine de... Alors vraiment, là, on marche sur la tête parce qu'on vient défendre la cause de Français qui souffrent. Et on parle du corps médical régulièrement. Mais c'est lui qui a pris, voilà. Là, c'est vraiment un cas d'école.
Non, mais là, on vient affronter l'État par transfert. On vient casser, on vient contre le capitalisme. On se fout, en fait, de l'ADN de la manifestation. Donc ces gens-là, vous le
disiez... On va l'écouter, je ne sais pas si on peut l'entendre, ce monsieur.
Ça vous fait quoi ? Alors, le monsieur, on est en train de le laisser partir à l'instant, vous voyez. Il est en train d'effectuer, justement. C'est un monsieur qui nous expliquait, donc...
Un médecin.
Jeanne, si vous m'entendez, je vous en prie qu'on monte l'image.
Merci, je vous entends tout à fait, Nelly. Ce que je vous explique, c'est que là, c'est un médecin qui était en intervention, en fait, à l'instant. Un médecin qui fait partie de SOS Médecins, qui vient de récupérer sa voiture, qui donc a été vandalisée, qui a été la cible des individus qui s'en sont pris directement aux forces de l'ordre, qui étaient juste en face d'elle. Des centaines d'individus qui étaient présents ici, vers Port-Royal, et qui le sont toujours. Il y en a quelques-uns qui ont continué, qui sont dirigés à l'avant du cortège, mais il y a encore plusieurs dizaines d'individus qui sont présents ici, qui veulent toujours en découdre avec les forces de l'ordre. Alors voilà, ce que vous voyez en ce moment sur l'image, c'est le médecin justement des souhaits médecins qui tente de partir, mais malgré tout vous avez toujours des individus qui sont en train de lancer des projectiles contre les forces de l'ordre, les forces de l'ordre qui n'ont pas encore chargé. Pour l'instant, ce qu'elles attendent, c'est que ces personnes, elles se dispersent, puisqu'il est très compliqué pour le moment de les interpeller, de les exfiltrer de ce cortège parisien. Alors les projectiles qu'on a vus voler, ce sont principalement des bouteilles en verre qui ont été trouvées dans des bouteilles de verre, dans des poubelles de verre, pardon, et qui ont été cassées par ces individus. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de mobilier urbain. C'est vrai qu'on le voyait un petit peu moins ces dernières manifestations, mais là, c'est beaucoup de mobilier urbain qui a été détérioré pour justement servir de projectile, et puis aussi beaucoup de voitures de particuliers. Vous l'avez vu, cette voiture d'SOS Médecins donc, qui a été pris pour cible, qui était un petit peu plus rare, parce que nous, ce qu'on voit souvent dans les manifestations, ce sont les McDo, les banques d'assurance, les sociétés d'assurance, tout ce qui représente un petit peu le capitalisme qui est pris pour cible. Mais là, on n'est plus seulement sur ce registre-là. On sent un niveau de violence supplémentaire aujourd'hui dans cette manifestation. Mais on le rappelle, ce ne sont pas les manifestants, mais bien des individus, puisque les manifestants, eux, s'ils nous disaient, c'est qu'ils souhaitaient qu'une seule chose, c'est que cette manifestation se passe bien pour que leur message soit entendu.
Merci Jeanne, vous restez à proximité, bien évidemment. Pascal Bito Panelli, c'est le moment que les policiers ont choisi pour progresser, pour avancer. Qu'est-ce qu'ils font là ?
Alors écoutez, ils sont en train de se regrouper pour se positionner de façon à pouvoir faire de l'interpellation et essayer, quand ils seront en volume suffisant, de cisailler ce groupuscule, c'est-à-dire l'isoler de la manifestation, pour faire redescendre la tension et pouvoir procéder à des interpellations.
Mais ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à se refondre dans la masse, parce qu'on en voit subitement une centaine, voire 200 regroupés, puis après, ils s'évaporent dans la nature. Ils arrivent vraiment à se fondre comme ça dans le...
Totalement, c'est la technique du black bloc, le swarming, dit la technique du banc de poisson. Si vous voulez sortir sur les flancs, en partant d'une masse pour attaquer ou un symbole ou des forces de l'ordre, et aussi vite se remettre dans la masse, comme le principe du caméléon, pour essayer d'y disparaître à nouveau.
Louis-Marguerite, ce qu'on a vu là avec ce médecin qui a été pris pour cible, alors que ceux qui s'en prenaient à sa voiture ne le savaient pas, mais enfin peu importe, ça démontre en fait toute l'absurdité de la chose.
Le symbole est terrible. Le symbole est terrible. Je pensais que ça allait être un père de famille ou une mère de famille. C'est peut-être d'ailleurs le cas, mais en l'occurrence, c'est un médecin d'intervention. Le symbole est terrible et j'espère que ce sera retenu comme circonstance aggravante. Je ne suis pas un expert en la matière, mais c'est évidemment un problème. Tous ces gens, effectivement, ça a été évoqué, défient la République. Ils manifestent leur opposition au capitalisme. On est dans un pays tellement capitaliste qu'on est dans un pays dans lequel on peut aller se faire soigner à l'hôpital sans qu'on vous demande a une carte bleue, on est dans un pays dans lequel on a accès, et tant mieux. Enfin, je veux dire, personne ne le remet en cause. Et donc, ce capitalisme, enfin, il suffit d'aller voir autour de nous ce qui se passe. Et moi, je les invite à aller voir un vrai pays capitaliste, un vrai pays qu'on qualifie ultralibéral. On n'est pas du tout ultralibéraux. On accepte et on assume l'économie de marché. On assume la libre circulation des capitaux, la création d'entreprises. On pourra en reparler.
Mais il y a un vrai service public.
Mais ceux qui crient à la politique du président de la République, je soutiens, comme vous le savez, bien évidemment, je soutiens son action. Et je ne dis pas que tout est absolument parfait. Ce que je dis simplement, c'est que allez voir ce qui se passe ailleurs dans un vrai pays dit vraiment capitaliste. Et là, après, on en reparlera. Vraiment, il faut remettre les choses. Donc, moi, j'entends parfaitement les manifestants qui, d'ailleurs, dans leur immense majorité, je tiens à le rappeler, manifestent pacifiquement, avec aussi colère, je l'entends, hein, moi je l'ai entendu aussi dans ma circonscription, celle que j'ai l'honneur de représenter, à Chalon-sur-Saône, à Mont-Soleil-Mines, et qui crient leur désaccord parfois profond, et on peut en discuter, bien évidemment, mais on a cette minorité qui vient salir l'image, non mais c'est une minorité en l'espèce, j'espère qu'ils seront durement sanctionnés, parce que l'image est terrible, et elle est triste au final.
Et puis l'autre image, moi, qui me frappe, c'est que c'est ce que disait un petit peu Jeanne tout à l'heure, c'est y a ces manifestants qui regardent un peu pantois, un peu subjugués, un peu dépités, ce qui se passe sous leurs yeux, et qui continuent quand même bon an mal an à défiler, à aller avec ce flot de cortège qui progresse. Certains ne se rendront peut-être même pas compte de ce qui s'est passé à la marge de la manifestation, mais ceux qui l'ont vu, sans doute, sont en colère aussi. Hein. Eric, on voit qu'on est là pour contester un fait précis et que d'autres s'en prennent à ce qui aurait pu être leur voiture à eux aussi, après tout.
Oui, bien sûr, mais comme je le disais, c'est ce rejet, cette haine de cette catégorie de personnes, bien entendu, il ne faut pas généraliser, c'est une poignée. Hein. Mais ce que vous avez tout à fait raison de le dire, monsieur le député, c'est en France, moi je l'entends, les chefs d'entreprise que j'interview me le disent, on a de la chance d'être protégé comme on est en France. On oublie qu'on est un pays où on est protégé. Retraite, même si on râle en ce moment, sécurité sociale, santé, chômage. Vous imaginez, est-ce que vous connaissez d'autres pays, hormis notre cercle immédiat en Europe, qui protègent autant les gens? Et cette protection, on la paye effectivement avec des charges sociales qui sont certes élevées, qui réduisent la part nette du salaire, mais on est quand même bien heureux ensuite de pouvoir bénéficier de cette protection, de cette surprotection. Qu'est-ce qu'on serait si on n'avait pas cela? Combien de gens seraient dans la rue?
Bon, parlons quand même du fond de la mobilisation, parce que même si on est protégé par un service public, il n'y aurait pas autant de monde dans les rues s'il n'y avait pas un objet de mécontentement. En l'occurrence, le fait de travailler 2 ans de plus et de porter cet âge de départ légal à tout plein à la retraite à 64 ans. C'est ce à quoi la plupart des Français disent non aujourd'hui. Alors, Jean Messia, il y a des blocages qui sont prévus dans les raffineries, dans les secteurs de l'énergie, chez les électriciens, chez les gaziers. Est-ce que ce sera pour les syndicats et pour la gauche en général qui appelle à cette mobilisation la seule voie réelle de sortie de ce texte? C'est-à-dire que si ça ne s'inscrit pas sur la durée, en admettant qu'il y ait 2 ou 3 millions de personnes aujourd'hui, si ça n'est pas suivi d'autres mobilisations et d'autres formes de blocage sectoriel, ça n'aboutira à rien?
Écoutez, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a quand même une forme de double radicalité auto-entretenue. Il y a évidemment une forme de surdité et d'entêtement du gouvernement et de la majorité à ouvrir une discussion sérieuse autour de ce texte, et notamment autour de son point pivot qui est l'âge de départ à la retraite qui est porté à 64 ans. Donc évidemment, il y a une fuite en avant du gouvernement qui n'entend rien, qui ne voit rien, qui refuse toute forme de discussion là-dessus. Et évidemment, sur le terrain, vous avez aussi une radicalité qui est entretenue par cette radicalité gouvernementale. Donc tout ça donne une spirale dont nul ne sait où ça va se terminer. Par contre, effectivement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut dénoncer le blocage. Que les gens veuillent manifester, c'est très bien. Que les gens veuillent faire grève, c'est très bien. Ça fait partie de 2 droits fondamentaux. Mais il y a d'autres droits fondamentaux qui consistent aussi à travailler. Donc on ne peut pas empêcher les gens qui veulent travailler de le faire. C'est le cas aussi dans les transports. Je ne comprends pas. Vous avez toute une gauche qui nous explique depuis toujours que la mobilité est un droit fondamental. C'est un droit tellement fondamental qu'ils font même une politique de transport gratuit là où la gauche est majoritaire. Et en même temps, ils veulent tout bloquer et empêcher les gens de pouvoir se déplacer. Donc à un moment, il faut aussi se mettre en cohérence avec ses arrière-pensées.
Ça, c'est le discours de Gabriel Attal, qui dit, voilà, il y a aussi la France qui travaille, qui veut pouvoir aller travailler, manifester.
Mais il faut être raisonnable.
De manière républicaine, c'est bien, bloquer.
Il faut être raisonnable, mais Gabriel Attal ferait mieux de commencer par lui. C'est-à-dire, il ferait mieux de commencer par convaincre, au lieu de critiquer, effectivement, la radicalité des autres. Il ferait mieux de commencer par atténuer sa propre radicalité de la majorité, la propre radicalité du gouvernement en la matière, que tout le monde dénonce.
Louis-Marguerite, pour la réponse, par radicalité, il entend le jusqu'au boutisme de conserver le texte en l'état.
Non, mais juste laissez Gabriel Attal tranquille et tout va bien se passer.
Mais non, mais on en parle. Répondez à la question qui m'a été posée. En quoi Gabriel Attal serait inattaquable?
Je réagis à ce que vous disiez.
Il est dans le firmament des saints.
Allez, laissez-le répondre maintenant, laissez-le répondre.
Je vais juste dire qu'il suffisait de le laisser tranquille. Juste en réaction. D'abord, c'est... Évidemment, mais personne n'est sourd. Moi, je suis allé dans ma circonscription et beaucoup de députés l'ont fait. Et il y a eu 4 mois de concertation plus le débat parlementaire. Alors malheureusement, avec la médiocre qualité qu'on a observée, on peut pas décemment dire qu'il n'y a pas eu de débat. C'est pas vrai et le débat continue. Et d'ailleurs, les manifestations, les gens disent, elles ne servent à rien. Si elles servent, elles ont pu faire bouger des curseurs. Il est normal. Je vais y venir. Il est normal que cette réforme, elle suscite de l'angoisse, des colères, du mécontentement, parce que la retraite, c'est quelque chose de très intime. D'ailleurs, les gens se rapportent beaucoup à leur propre situation et ils se demandent moi, ça va me rallonger de 3 mois, de 6 mois, de 2 ans pour un certain nombre d'autres. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de faire le bilan de sa vie. Donc, c'est normal que ça suscite ces colères-là. Néanmoins, expliquer que soit il y a rien à faire, parce que certains nous le disent encore, soit il suffit de trouver des taxes imaginaires qui n'existent pas ou qui vont marcher 1 ou 2 ans, ça c'est pas responsable. Et l'action publique, et c'est ça la responsabilité qui est la nôtre, c'est effectivement d'expliquer que il y a un équilibre. Merci. Que l'on doit trouver. Voilà, ça c'est très important pour nous.
Alors, tandis qu'on va s'appuyer aussi sur les images, parce que vous le voyez, les tensions reprennent et elles sont à nouveau sous votre caméra, Jeanne Cancard.
Oui, Nelly, à l'instant, les tensions viennent de nouveau d'éclater ici. Et puis l'image qui nous frappe aussi, c'est de voir malheureusement des manifestants qui partent le regard assez effrayé de cet endroit, qui partent revenir rejoindre une partie de cortège un petit peu plus calme, puisque là, de nouveau, des affrontements viennent d'éclater entre des individus entièrement vêtus de noir et cagoulés pour la plupart et les forces de l'ordre. Ces individus qui prennent un petit peu tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Beaucoup de morceaux de trottoir, de morceaux de route qui ont été décollés et qui sont envoyés en direction des forces de l'ordre. Malheureusement, là où on peut dire que la manifestation, depuis maintenant près d'une heure, elle n'est plus pacifiste. En tout cas, sur ce morceau-là, sur ce tronçon-là du cortège parisien, qui, on le rappelle, il est très grand. Donc forcément, il y a des manifestants qui nous diront à la fin de la journée aussi, évidemment, et heureusement que eux, de leur côté, ça s'est très bien passé dans le calme, dans la bonne enfant. Mais là, les manifestants qui se trouvent sur ce tronçon-là, malheureusement, ils assistent en ce moment à des échauffourées assez violents entre les forces de l'ordre et les individus qui peuvent s'apparenter clairement à des black blocs avec des fumigènes et des projectiles qui sont envoyés toujours en direction des forces de l'ordre et puis aussi de certains commerces et de certaines voitures de particuliers. La tension, on peut le dire, elle monte ici, elle monte clairement d'un cran. On a fait les autres manifestations, les manifestations précédentes. Il y a toujours des moments comme ça où des tensions éclatent. Mais là, on peut dire que le niveau de violence, il est plus élevé dans celle-ci. Alors, comment l'expliquer? C'est compliqué. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de monde? Est-ce que les individus radicaux sont plus nombreux dans le cortège? Alors que les fouilles, elles sont tout autant présentes, voire plus pour cette manifestation qui était évidemment très attendue avec une forte mobilisation qui est espérée par les syndicats. Pour l'instant, compliqué d'expliquer ça, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que les forces de l'ordre, aujourd'hui, ce qu'elles essaient de faire, c'est de protéger à la fois la population, les manifestants et puis aussi évidemment les commerces et essayer au maximum d'exfiltrer les individus radicaux. Mais là, en ce moment, c'est assez compliqué.
Merci beaucoup, Jeanne Cancard. Voilà, là, on est un petit peu plus loin. On n'a pas beaucoup progressé, évidemment. On est toujours aux abords du boulevard du Port-Royal avec à chaque fois les policiers qui se mettent dans des rues adjacentes pour tenter d'amener à eux les éléments perturbateurs et faire en sorte quand même que le cortège continue bon an, mal an sa course, j'imagine, Pascal Vitopanelli.
Tout à fait, absolument. Donc c'est ce maintien de l'ordre différent où on met des forces un peu hors décor dans les rues adjacentes et où on prévoit des itinéraires bis de façon à gérer l'avancée, la dynamique d'avancée du cortège par rapport au point de cristallisation et de tension, avec d'ailleurs un changement depuis quelque temps, des unités de force mobile différentes, dont la CRS numéro 8, qui est une CRS dite hybride de nouvelle génération, qu'on met souvent en tête de cortège pour pouvoir régler en fonction de la configuration l'avancée, le blocage de la manifestation. On voit qu'au niveau de l'ordre public, on est monté d'un cran, pour ne pas dire de deux. On n'est plus dans le service d'ordre, on est dans le maintien de l'ordre, voire même le rétablissement de l'ordre, avec des radicaux qui sont aujourd'hui plus nombreux et qui ont décidé d'être plus dans l'action. Ça se sent en ayant amené hier ou en se trouvant aujourd'hui avec des outils, du matériel différent. Il peut être offensif comme des pavés, des fumigènes, des outils, des boules de pétanque.
Là, on voit même qu'il y a un échafaudage, malheureusement, absolument, pour les forces de l'ordre aux abords, au croisement de cette rue. Et j'imagine qu'ils vont aller chercher aussi quelques-uns des...
Ou se servir de l'ensemble
de l'édifice.
Du mobilier urbain qu'on peut trouver, qui d'habitude est retiré ou est sécurisé. Ou aussi, on le trouve sur les barrages filtrants, du matériel dit défensif. Mais pour se défendre de qui ? Des forces de police avec des lunettes de ski principalement et des masques à gaz.
Mais là, il y a énormément de monde. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de 100 ou 200 individus. Quand on regarde à quel point ils sont répartis quand même dans ce cortège, on les voit là en plus en train de se hisser sur les fameux échafaudages, peut-être même pour aller prendre de nouveaux projectiles à l'adresse des policiers ou pour les attaquer d'en haut, avec de la hauteur. Là, ils sont plutôt de l'ordre de 300-400 quand même.
Alors, c'est ce qu'avaient prévu les services de renseignement. 300-400 radicaux et peut-être encore 300 Black Blocs en plus qui s'additionneraient sur cette journée d'aujourd'hui.
Et ils ont réussi à se retrouver. Et ce n'est pas toujours évident quand même, parce qu'ils n'ont pas de portable. Enfin, comment ils font pour se retrouver ?
Beaucoup par les réseaux sociaux.
Beaucoup par des réunions.
Par des réunions de préparation, par leur tenue. Ils se réunissent souvent aux mêmes endroits, c'est-à-dire en pré-cortège. Ils sont très techniques, avec beaucoup de réunions de préparation. C'est de la guérilla urbaine. On prépare. Et on fait, si vous voulez, dans la théorie, de la propagande par l'action.
C'est-à-dire regardez, c'est ce que je vous disais. Là, ils sont cagoulés, le visage masqué, donc vêtus de noir. Ils ont réussi à grimper sur les balcons, aux étages. J'imagine les gens qui sont à l'intérieur qui doivent être un peu terrifiés s'ils sont chez eux. Ça doit pas être très agréable. Et donc, ils sont en train de se hisser sur cet échafaudage. Dieu sait pourquoi faire, mais on imagine qu'ils vont... qu'ils vont pouvoir faire feu de tout bois. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous commenter cette image. Vincent Fandège, vous êtes aux abords de ces individus. Que font-ils en ce moment ?
Oui, Nelly, on est à côté de cet échafaudage que vous voyez sur nos images actuellement. Et effectivement, ils sont en train de démonter tout simplement cet échafaudage et de tout simplement descendre les éléments de cet échafaudage, plutôt très lourd d'ailleurs, aux autres personnes qui sont en dessous. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent en faire, peut-être les lancer sur les forces de l'ordre, en tout cas peut-être aussi créer des barricades de fortune. Il y a effectivement beaucoup de monde, plusieurs centaines de personnes autour de nous, avec des slogans que l'on entend régulièrement dans ce type de manifestation, en tout cas quand il y a des éléments perturbateurs, des slogans anti-capitalistes, beaucoup de monde, énormément de projectiles aussi contre les forces de l'ordre. Il y a eu beaucoup de mortiers d'artifice, des feux d'artifice qui ont été lancés contre les forces de l'ordre, et vous voyez toujours donc ces personnes sur nos images qui continuent de démonter tout simplement cet échafaudage. Et c'est vrai que étant assez proche de ces personnes-là, il y a quand même des personnes assez jeunes là-dedans qui sont donc montées sur l'échafaudage, qui visiblement sont en train d'en descendre, peut-être parce qu'effectivement ils vont devoir être délogés à un moment donné par les forces de l'ordre.
Ouais, et puis avec les risques que ça comporte aussi, que l'échafaudage s'écroule au bout d'un moment, parce que c'est monté par des spécialistes, et quand on prend des pièces comme ça, ça et là, ça peut entraîner un certain nombre de risques pour ceux qui se trouvent dessous. Donc on espère vraiment que qu'on ne courra pas à la catastrophe. Alors ceux qui sont dessus, c'est eux, donc ils prennent... c'est à leur risque et péril, c'est... Enfin, je n'ai pas bien fait pour eux, mais presque. Ils n'ont pas à monter sur cet échafaudage. On voit cette vue aérienne avec un petit peu de confusion quand même qui règne. Louis-Marguerite, un commentaire sur ces images.
Commentaire d'abord, beaucoup de tristesse parce qu'au fond, ces gens qui manifestent contre l'État soi-disant capitaliste, c'est sans se rendre compte de la chance dans laquelle le pays convient. Et au fond, on peut contester plein de choses. Mais encore une fois, on est, qu'ils aillent ailleurs dans le monde et ils verront ce que c'est qu'un pays dit ultralibéral. Ça, c'est le problème. premier point. Et le second point, c'est qu'est-ce qu'ils vont expliquer demain aux salariés qui va se rendre sur le chantier, qui va s'apercevoir qu'il ne peut pas monter sur son échafaudage parce que la moitié de l'échafaudage qui ne tire pas, aux chefs d'entreprise qui galèrent pour recruter, qui a du mal à faire ses chantiers, etc. À ce médecin qui va devoir réparer son pare-brise parce qu'il a juste besoin pour son travail ou sa vitre qui a été fracturée, etc., etc. Qu'il soit pour ou contre, c'est ça qui est terrible en fait dans cette image. On est dans une violence extrêmement violence gratuite, des dégradations extrêmement violentes. Et moi, je tiens quand même à saluer le professionnalisme des forces de l'ordre qui, d'ailleurs, eux aussi ont leur propre avis sur la retraite. Ils peuvent être pour, contre la réforme, etc., mais qui agissent avec beaucoup de professionnalisme et sont des vrais serviteurs de l'État. Heureusement qu'ils sont là pour essayer de contenir ces dégradations qui sont lamentables et extrêmement violentes.
Alors, les forces de l'ordre qui, au passage, sont venues récupérer une partie de l'échafaudage qui avait été enlevé pour les mettre hors d'usage, hors d'état de nuire. Jean Messia, vous disiez qu'ils s'en fichent de ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour créer le chaos, semer le chaos, rien de plus.
Oui,
ils ont de compte à rendre à personne, quoi.
Tout à fait. Bon, déjà, ce genre de black bloc, ce genre d'individus et ces obédiences d'ultra-gauche, ils arrivent quand même dans une manifestation où le moins qu'on puisse dire, c'est que les gens qui sont dans ces manifestations ne les rejettent pas. On a vu tout à l'heure les images. Les gens sont hébétés, ils regardent avec curiosité.
Jeanne nous disait effrayé pour certains.
Oui, effrayé pour certains, mais subjugué pour d'autres. Vous avez utilisé tout à l'heure ce mot-là, et c'est vrai. On ne voit pas, moi par exemple, à la manif pour tous, je n'ai pas vu de black blocs. Et pour cause, puisque effectivement, c'était une manifestation qui n'était pas du tout de cette couleur politique-là, ni de près ni de loin. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des voyous. Ces gens-là ne sont pas là pour manifester. Ils ne sont même pas là pour exprimer une demande ni sociale ni politique. Ils sont là pour casser, pour se donner des frissons et pour faire mumuse, pour jouer à la révolution en s'opposant comme des voyous aux forces de l'ordre. C'est tout.
Ça s'appelle du vandalisme.
Ça s'appelle du vandalisme. Donc ce sont des gens qui sont effectivement des délinquants, voire des criminels dans certains cas. Donc il faut les traiter comme tels. Point. Maintenant, si vous voulez, c'est vrai qu'en France aujourd'hui, lorsque l'on voit l'ampleur des mobilisations et leur durée, il y a, qui se superpose sur la colère sociale, une vraie désespérance sociale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent ni à trouver de sens dans leur travail, ni à vivre de leur travail. Donc cette réforme des retraites qui arrive quand même dans un contexte où les temps sont très difficiles, rendus très difficiles par une inflation galopante, y compris sur les produits alimentaires, le timing de cette réforme est pour le moins maladroit et n'a fait qu'attiser et aggraver la colère des Français. À un moment où les gens n'arrivent plus à finir leur fin de mois parce que leur pouvoir d'achat est grignoté par une inflation qui dépasse les 15%.
Pour vous, c'est pour ça qu'on aurait potentiellement 2 millions de personnes aujourd'hui s'il n'y avait pas l'inflation, s'il n'y avait pas les soucis sur l'alimentaire, sur le fait que les gens n'en peuvent plus à la fin du mois. La seule perspective de la réforme n'aurait pas à ce point provoqué la colère.
Je pense qu'il y a une composante non négligeable de cette mobilisation qui peut être attribuée au climat général de souffrance sociale induit par des phénomènes extérieurs à la réforme des retraites. Aucun Français aujourd'hui n'est insensible à l'inflation, et encore moins les Français des classes moyennes et les Français des classes populaires. Donc effectivement, on ne peut pas non plus dégager et négliger cet aspect-là des choses.
Tandis qu'on voit les pompiers à l'œuvre qui essaient d'éteindre une poubelle en feu, Vincent Fandège, vous êtes toujours là et vous écoutez aussi attentivement ce qui se passe sur notre plateau.
Oui, chère Nelly, parce qu'effectivement, alors j'entendais Jean Messia à l'instant qui disait ne pas avoir vu ces scènes-là lors des manifs pour tous. Pas de chance pour Jean Messia, j'allais dire, pardonnez-moi d'ironiser là-dessus, mais c'est vrai que c'est des manifestations que j'ai énormément couvertes à l'époque, notamment cette dernière semaine avant que la loi soit adoptée à l'Assemblée nationale. Et tous les soirs de cette semaine-là, je m'en rappelle très très bien, il y a eu des manifestations extrêmement violentes, les plus violentes que j'ai jamais vues, pour tout vous dire, même plus violentes que ce qu'on voit là, plus violentes
que
les manifestations. Alors ça, c'est vous qui le dites, mais toujours est-il que ces scènes-là, ce ne sont pas nouvelles, on les connaît, et notamment depuis les manifs pour tous, où c'était des éléments perturbateurs qui venaient à la fin de la manifestation. Effectivement, il ne faut pas confondre les manifestants eux-mêmes et les casseurs, mais toujours est-il que ces scènes-là, on les a vues en nombre, je les ai vécues moi-même. Voilà, je tenais à mettre les choses à recontextualiser.
Vous avez une lecture un peu politique des choses, mais je vous pardonne.
Bon, on va retrouver Jeanne Cancard qui se trouve ailleurs dans le cortège, et là où les policiers effectivement avaient forte affaire avec des éléments perturbateurs. Est-ce que ça s'est quelque peu calmé? Est-ce qu'on est toujours dans ce système de yo-yo, d'alternance entre une forme de manifestation paisible et puis des moments où il y a des surchauffes?
Alors malheureusement ici, Nelly, on ne peut plus parler de manifestation paisible, en tout cas au niveau de ce tronçon. Après oui, si je peux reprendre votre expression, le yo-yo, c'est un petit peu le cas. Vous avez des moments un petit peu plus d'accalmie, le temps eh bien, que les casseurs se regroupent et que les forces de l'ordre eh bien, se mettent en position. Pour le moment, il n'y a pas eu de charge qui a été ordonnée par les forces de l'ordre qui attendent encore, puisque les casseurs sont de l'autre côté de la rue, en face, en train de se regrouper, qui envoient toujours des projectiles en direction des forces de l'ordre. Il y a encore certains individus qui sont positionnés aussi sur les échafaudages sur l'angle de cette rue. Il faut aussi souligner que c'est assez étonnant de voir des échafaudages, des travaux sur le parcours de la manifestation, puisque on a des souvenirs de manifestations où justement les travaux en fait ils ont permis aux casseurs de pouvoir prendre eh bien, des projectiles assez facilement. Donc lors des dernières manifestations eh bien, la stratégie, si on peut appeler ça comme ça, était tout autre. Le parcours, eh bien, on choisissait un parcours qui était justement défini de façon à ce qu'il y ait le moins de possible de projectiles sur le parcours de la manifestation, que ce soit des travaux ou bien du mobilier urbain. Mais là, en fait, ce qu'il faut souligner particulièrement ici et ce qui pourrait en partie expliquer les fortes violences, ces actions fortement violentes de la part de ces individus, eh bien, c'est un petit peu tous les projectiles qu'ils ont pu trouver ici sur le parcours, que ce soit des morceaux de roues, de poubelles, des morceaux d'échafaudage qui ont été dévissés justement et qui ont été donnés aux casseurs qui, eux, se trouvent à terre. En ce moment, on assiste pour l'instant à un moment, si on peut appeler ça, de répit. Mais malheureusement, on peut imaginer que eh bien, la situation va de nouveau se tendre d'ici quelques minutes.
Et les forces de l'ordre l'ont bien compris, puisqu'elles sont en faction, hein, devant précisément cet échafaudage qui fait tout l'angle d'une rue. C'est assez conséquent. Et c'est un peu la prise de guerre, c'est-à-dire qu'il faut absolument sécuriser cet endroit pour éviter que les fameux individus qui perturbent la bonne marche de la manifestation ne viennent à nouveau s'en saisir et récupérer encore du matériel. C'est pour ça qu'ils restent là, positionnés, un peu statiques, mais pour s'assurer, voilà, ils progressent même en ce moment. Vous voyez, les images, on les découvre en même temps que vous, hein. C'est-à-dire que vraiment là, on est sur du direct pur grâce à nos équipes et on voit une petite unité qui s'avance pour aller au contact peut-être avec certains de ces éléments. Un chiffre à vous communiquer. 11 interpellations à 16h. Le bilan qui avait été communiqué par la préfecture de police était celui-ci. 11 interpellations qui ont eu lieu dans le cortège. Bon, c'est pas hyper conséquent pour l'instant, mais ça reflète peut-être pas la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Mais voilà, Pascal Bitopanil, je vous laisse peut-être nous parler de cette progression sur le trottoir là.
Voilà, alors ne pas penser que parce qu'aujourd'hui, dans cette méthode du préfet, on met les unités un peu plus hors décor, qu'il n'y a pas pour autant d'interpellation, loin de là. On a toujours sur le terrain les compagnies d'intervention, les BAC et les Braves, ainsi que bien sûr les CRS et les gendarmes mobiles, avec des spécialistes de l'interpellation qui vont éclater le BAC-BOC et se repositionner pour se remettre hors décor. Donc là, on voit des bons offensifs et des montées à l'interpellation d'unités pour faire redescendre la tension. On parlait d'échafaudage tout à l'heure. Alors bien sûr, non seulement la préfecture de police sur un parcours va prévenir un par un l'ensemble des commerçants qui se trouvent sur le trajet, mais elle va essayer de nettoyer le parcours de manière à laisser le moins possible, de matériel qui puisse être utilisé dans de la manifestation. On ferme des chantiers par réquisition préfectorale, on protège les abribus, on retire les poubelles vertes, etc. Un échafaudage, c'est plus difficile, surtout s'il est autour d'un immeuble, de le faire retirer par la société. C'est pour ça qu'il est resté et que malheureusement, ça a servi. Je ne sais pas si ça a servi d'arme parce que je n'ai pas toutes les images. C'est pour ça maintenant que les unités le sécurisent et restent en statique pour éviter le débordement. On va tenter de, comme je vous le disais tout à l'heure, de cisailler ces casseurs, de les isoler de la manifestation et avec sans doute la CRS 8 en tête de cortège, faire avancer un peu plus rapidement la manifestation pour pouvoir faire en sorte qu'elle se déroule autant que faire se peut de façon moins tendue.
C'est-à-dire que tant qu'elle se déroule et que c'est fluide, c'est la garantie qu'on peut isoler plus facilement les éléments perturbateurs. C'est quand ça devient statique qu'il y a un danger.
Alors ça l'est, mais on régule, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a non seulement cette CRS 8, mais il y a aussi des officiers de liaison. Ouais. Les officiers de liaison, ils sont dans les manifestations. Ils travaillent d'ailleurs aussi avec les services d'ordre syndicaux. Et on va moduler en fonction de la configuration et des ordres qui viennent de la DOPC, de l'île de la Cité, pour essayer de régler et de garder l'ordre public à l'équilibre. Ça peut être un moment où on dit stopper, bloquer, le temps qu'on sépare les éléments radicaux, ou reprenez votre dynamique, accélérez. Bref, on règle au cas par cas et pendant tout l'après-midi la dynamique d'avancée de la manifestation. Alors, c'est un exercice que sait bien faire la préfecture de police. Pour avoir un ordre d'idée, en 2022, il y a eu 1916 manifestations revendicatives à Paris, c'est-à-dire plus de 5 manifestations par jour. Donc, pour vous dire qu'à la préfecture de police, on sait faire ce travail.
Ah oui, là, c'est sûr qu'ils ont un bon retour d'expérience. Cette image est assez parlante, parce que vous voyez d'un côté les policiers, des manifestants qui essaient de se frayer un chemin, ceux qui circulent librement comme s'il ne se passait rien. C'est un peu étrange comme image, finalement. Éric Adrien Mattel, on parlait de la colère tout à l'heure avec Jean Messia. Elle est liée à l'inflation. On a pris 14,5% dans les rayons, 10% de plus dans les jours qui viennent, là, à l'issue de négociations avec la grande distribution. Ça commence à faire très, très lourd sur le budget des familles, quand même. Oui. D'où la colère ronflante aussi.
Oui, c'est sûr. Mais bon, là, pour le coup, le gouvernement n'y peut absolument rien. C'est vrai que moi, ce qui me choque toujours un petit peu, c'est qu'on fait un peu porter à l'État toutes les responsabilités, si vous voulez. Bon, alors les retraites, elle a été mal présentée, la réforme, ok, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, on rentre dans un tellement de système technique, c'est tellement compliqué que plus personne ne s'y retrouve même. Je pense que le gouvernement a du mal à donner les bonnes explications. Ça, c'est un autre débat. Mais pour le reste, je regrette, mais l'inflation, elle est due à la guerre en Ukraine. Elle a été due, en tout cas, à la guerre en Ukraine. Ensuite, vous avez eu un ensemble de choses. Moi, quand je regarde aujourd'hui, par exemple, les prix des containers, on en parle. Vous savez que pour utiliser un container normal, ces boîtes qui sont sur les cargos, ça coûtait 12 000 euros au moment de, plus haut de la crise. Ouais. Maintenant, c'est revenu à 1 200. Le blé est retombé très bas. Le pétrole est retombé très bas. Donc, si vous voulez, il y a des hausses de prix aujourd'hui qui arrivent 6 mois après, qui sont peut-être justifiées, mais qui ne devront pas durer si les choses se calment.
Et il y a quand même des abus. Les Français, dans le contexte actuel, l'entendent bien.
Alors, vous avez raison.
C'est pas la faute d'un tel ou d'un tel.
Alors, attendez, vous me permettez juste de terminer pour pas être trop long. Je laisserai la parole aux députés. C'est que quand même, je pense que en France, encore une fois, on a eu de la chance, parce que quand vous regardez ce que l'État a pu débloquer comme argent, comme aide, et pour les plus modestes d'ailleurs, les chèques carburant, je pense qu'ils ont été développés. La baisse de l'essence dans beaucoup de pays étrangers, on se disait, ils ont de la chance en France d'avoir 50 centimes de moins sur le prix de carburant. 30 centimes de la part totale, 20% de la part du gouvernement. Moi, je ne connais pas d'autres pays au monde où il y a eu ça.
Donc les Français seraient ingrats ?
Mais c'est pas, une question d'ingratitude et je veux attaquer personne.
On est bien lotis, vous dites.
Je dis simplement, aller casser l'État ou aller le critiquer et jeter des pavés à droite à gauche parce qu'on dit que c'est l'État qui est responsable. Là, pour le coup de l'inflation, je suis désolé, je ne suis pas un homme politique, mais je serais politique, je dirais, écoutez, nous, on a fait ce qu'on pouvait.
Louis-Marguerite, je reviens vers vous dans un instant parce qu'on va aussi entendre Gabriel Attal qui s'exprime au Sénat. Mais j'aimerais juste qu'on aille dans le cortège parce que Vincent Fahandège est avec nous. Vincent, je crois que vous-même, vous avez eu à subir une prise à partie dans cette manifestation. Racontez-nous.
Oui, absolument. Alors, il faut savoir qu'on a décidé de traverser la route pile au mauvais moment, quand il y a une charge de la part des forces de l'ordre. Donc, il y a eu un mouvement de foule et il y a plusieurs centaines de personnes tout autour de nous, forcément. Et le problème, c'est qu'au milieu de la route, derrière nous, donc derrière ce mouvement de foule, il y avait cette barricade qui avait été préalablement érigée par les éléments perturbateurs. Donc, il y a eu cet effet de masse contre cette barricade, des personnes qui tombent, qui se font un petit peu piétiner. Heureusement, visiblement, tout le monde a pu se relever et courir, mais toujours est-il que là où nous sommes, c'est un peu, la situation est assez chaotique. Il y a eu ce nuage de gaz lacrymogène qui nous est arrivé dessus, avec toutes les personnes qui essayent de fuir et le mouvement de foule qui s'ensuit forcément. Et vous voyez sur nos images tous les dégâts, forcément, ces bouts de pierre que les forces de l'ordre reçoivent, quelques pièces également de l'échafaudage qui a été démonté également, que vous avez pu suivre tout à l'heure sur notre antenne. Donc voilà un petit peu pour l'atmosphère électrique qui règne actuellement. J'allais dire, pour le moment, c'est en stand-by, mais tous ces éléments perturbateurs, on les voit, on le sait, ils sont juste à côté de nous, ils sont tout autour de nous. Et ce qui est aussi problématique, c'est qu'il y a des manifestants autour de nous. Et ces manifestants, ils sont de tous âges. J'ai vu à côté de moi des personnes assez âgées tomber. C'est assez problématique pour ces manifestants qui viennent juste crier leur colère dans la rue.
On a vu une dame, effectivement, qui était escortée même loin du tumulte parce qu'elle était en danger. Et évidemment, ce qu'il faut absolument
vraiment éviter dans ces cas-là. Ce sont les, ce qu'on appelle les victimes collatérales de ces dangers. Juste un mot quand même sur Vincent, sur la progression ou pas. On a l'impression que là, on est en face de l'échafaudage. On n'a pas du tout avancé d'un iota là, dans le, entre policiers et agresseurs.
Non, pour le moment, c'est... les tensions se cristallisent au niveau du boulevard du Port-Royal. Toujours, le cortège n'a pas avancé. Il y a toujours le camion de début de cortège qui est coincé à quelques dizaines de mètres de là. On voit le ballon hein, du camion. Et à le moment où je vous parle, il me semble que les forces de l'ordre sont en train de se repositionner tout autour de nous. Donc toujours est-il qu'effectivement, la manifestation n'avance pas du tout pour le moment. Reste à savoir si elle va réussir à avancer tout simplement jusqu'à la fin de jusqu'à la place d'Italie.
Un petit mot, merci beaucoup Vincent, un petit mot de ce qu'on aperçoit sur le sol. Il y a eu ce gros plan là, sur, à la fois bah, sur ces espèces d'échelles en métal, de tubes de métal. On imagine, là, si c'est projeté avec force, les dégâts que ça peut occasionner. Hein, il ne faut pas être, avoir trop d'imagination pour se dire que ça fait très très mal à celui qui les reçoit. Et puis ces pavés, je n'ai pas bien compris comment ils procédaient, mais bon, c'est des morceaux de bitume qu'on arrache, qu'on arrive à faire fondre.
Ça, oui, ou bien on a un marteau, un burin dans son sac à dos.
Et on coupe.
On casse, on prend des pavés, des morceaux de trottoir, des morceaux de façade. Bref, on est dans les techniques de guérilla où si on n'a pas amené le matériel, on essaye de se le procurer et on joue de l'espace, du relief, de la fluidité, de la rapidité, en sachant qu'aujourd'hui, dans l'écologie de la manifestation, on constate qu'on a beaucoup de jeunes adultes et d'adolescents. Donc c'est aussi un défi pour les forces de l'ordre. Mm-hmm. Rappelez-vous Malik Oussekine, il faut être très prudent sur le contact physique, bien discriminer les publics, vous en parliez tout à l'heure. Et quand il y a des bons offensifs et des charges, c'est très compliqué pour les forces de l'ordre de travailler de manière opérationnelle et technique.
Mmh. Et puis, vous voyez ces images-là, on a un quadrilatère qui montre à la fois l'échafaudage, les restaurants aussi, les restaurants qui n'ont pas forcément baissé le rideau, soit parce qu'ils ne le peuvent pas, soit parce qu'ils avaient quand même toute confiance que ça se déroule à peu près sereinement. Et puis de l'autre côté, voilà, ces gens qu'on sécurise et à qui on demande de rester à l'abri. Un mot sur ce qui se passe aussi du côté du Parlement, parce qu'on va y aller dans un instant. Vous savez, le texte est au Sénat en ce moment, le texte de loi. Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui se penche dessus avec une cadence un petit peu plus rapide, il faut le dire. Et puis aujourd'hui, c'était l'article 7. Qui devait être abordé. On avait décidé qu'on ne le ferait pas avant la mobilisation du 7. Donc voilà, les sénateurs ont fait en sorte que ce soit abordé aujourd'hui. A priori, on pourrait voter. Bon, même si vous êtes député, ça pourrait être voté dans la nuit, c'est ça, sur l'article 7.
C'est ce qu'on comprend. Il y a eu une accélération, effectivement, des sénateurs. Donc le débat, d'ailleurs, je vais saluer la qualité du débat, en tout cas, un débat de bien meilleure qualité. Et en tout cas, effectivement, ça permet.
Il y a moins d'amendements. Déjà, on a retiré les amendements.
Il y a un débat plus serein. Ils n'ont pas transformé l'Assemblée nationale en scène de guérilla. Et tant mieux. Et heureusement, parce que ça permet de redorer une image qui a été quand même très, très violemment ternie. Et c'est très regrettable.
Alors là.
Pardon, oui. Si je peux me permettre de répondre à ça, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus négliger le fait que l'élément qui consiste à dire que le Sénat est acquis à la droite et au centre, qui sont évidemment favorables depuis toujours à un décalage, à un décalement de l'âge de la retraite, certains pour 64 ans, d'autres pour 65 ans. Donc bon, dire que le débat était serein, bien sûr, comme il y a quand même des oppositions qui étaient bien plus faibles au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, c'est un truisme de dire que le débat a été effectivement plus serein. Plus il y a des désaccords, moins le débat est serein. Après, on peut discuter sur la forme de la manière dont on s'oppose. Ça, je vous l'accorde. Et je ne suis pas du tout d'accord avec la manière, par exemple, dont les Insoumis se sont opposés à l'Assemblée nationale. Mais convenez quand même qu'au Sénat, le désaccord sur le fond étant moins important, le débat a été plus capitonné, on va dire.
Oui, peut-être un point pour que tout le monde ait le schéma en tête, c'est qu'après l'examen au Sénat, il y aura ce qu'on appelle une commission mixte paritaire avec les représentants des députés et sénateurs, chacun représentant le poids politique dans les deux chambres, et qu'il y aura ensuite un vote dans chacune des deux chambres sur le texte final sans qu'on puisse y retoucher, s'il y a eu un accord dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Ce vote, en tout cas pour ce qui est de l'Assemblée nationale, aura lieu jeudi prochain à 16h. Et donc, effectivement, là, on verra. Juste peut-être deux points de réaction, si vous pouvez me permettre.
Allez-y, parce qu'après, on irait entendre votre ministre.
Donc, peut-être d'abord, sur les manifestations, il est exact et c'est parfaitement juste de dire qu'il y a eu beaucoup d'agrégations, de beaucoup de colère et beaucoup d'inquiétudes. Et moi, quand j'interroge les citoyens de ma circonscription, tous ceux que je rencontre dans la permanence, France, dans les rues, sur les marchés, etc. Il me parle des retraites, bien évidemment, mais il me parle surtout, et sans doute plus, de la fermeture des classes, des difficultés d'accès aux soins, bien sûr du prix de l'énergie, des inquiétudes, etc. Donc ça agrège beaucoup d'inquiétudes, d'angoisses, que le gouvernement et la majorité, sans être parfait, hein, il faut être aussi humble dans la façon dont on prend les décisions publiques, essaie de résoudre les unes après les autres. Et deuxième point, et je ne veux pas paraphraser ce qui a été dit par mon voisin d'en face, c'est qu'en réalité, il faut évidemment... Non, ce n'était pas vous, c'était celui d'à côté. Non, je vous cite assez rarement, M. Messia, rassurez-vous.
Non, mais vous pouvez. Hein.
Je n'ai pas tellement envie. Je précise quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que ça suffit et je ne dis pas qu'on va s'arrêter là, mais je note quand même que sur un certain nombre de dispositifs d'aide, elles sont assez peu utilisées. Je pense notamment à l'aide fuel, l'aide sur les pellets, 10% par exemple, c'est pas la panacée, mais ça vient aider directement des familles qui se chauffent au fuel. Il y en a encore beaucoup dans nos circonscriptions rurales, etc. Et donc je veux juste dire aux uns aux autres qu'il y a des choses qui existent, qu'il faut les utiliser à plein, que si ça suffit pas, on remontera au créneau, mais c'est ça qu'on fait.
Oui, mais vous changerez pas, le fait
j'ai pas dit qu'on allait changer.
Non, c'est pas ça, vous changerez pas le fait que les gens ne veulent pas des 2 ans supplémentaires. Point final.
Oui, mais moi je leur dis, je leur ai dit, y compris à l'intersyndicale que j'ai rencontré dans le bassin minier, qui étaient tous opposés à la réforme, je leur ai dit, on peut améliorer les choses. D'abord, il y a des choses qui ont évolué entre le texte initial au mois de septembre, enfin, en tout cas les prémices du texte initial, et maintenant, et ça a servi à quelque chose qui est une contestation. Je dis juste simplement, c'est que dire qu'il ne faut pas de mesure d'allègement de la durée de cotisation, ce n'est pas responsable, parce que ça n'existe pas si on veut tenir le modèle. Après, on peut être pour ou contre ce principe, mais nous, on pense que c'est responsable.
On reviendra au fond tout à l'heure, juste 2 précisions, et on va retrouver Vincent Fandège, parce que apparemment, là, vous voyez ces policiers qui sont toujours en train de bloquer une des rues adjacentes du boulevard du Port-Royal. Il y a 1000 éléments perturbateurs présents, ça c'est le décompte des forces de l'ordre, et on va le commenter à nouveau avec vous. Vincent, qu'est-ce qui se passe là? On a l'impression que le cortège est complètement à l'arrêt en l'état.
Alors, le cortège avance, se remet à avancer vraiment pas à pas. On voit les drapeaux arriver là où on se trouve, là où il y avait les tensions il y a encore quelques instants. Les CRS se sont redéployés le long de la rue Berthollet et du boulevard de Port-Royal, justement pour permettre au cortège d'avancer. Il avance, c'est un grand mot, hein, il avance vraiment très très lentement. Donc pour le moment, la situation, j'allais dire, est en stand-by. Je voulais juste vous montrer cette image. Regardez sur les images de Charles Pousseau, c'est un exemple un petit peu de ce qui est lancé sur les forces de l'ordre et tout simplement, oui, sur les forces de l'ordre pendant ces manifestations. Alors ça, c'est rien. Vous voyez la taille de ma main. Le problème, c'est que c'est une pierre qui est assez, j'allais dire aiguisée, mais en tout cas en pointe. Et imaginez si une personne sans casque se prend ça sur la tête, ça peut occasionner de gros dommages. Et il faut savoir qu'il y a énormément de personnes. Il y a toujours des manifestants qui sont là, notamment des personnes âgées. Donc c'est vrai que ça peut devenir assez vite dangereux pour les manifestants qui sont là autour de ces tensions. Toujours est-il que pour le moment, les tensions sont parties. Néanmoins, il y a tous ces éléments perturbateurs, on les voit, ils sont toujours autour de nous. Il y en a un qui a été arrêté d'ailleurs, hein, il y a quelques instants. C'est le mode opératoire de la police, hein, vous le savez, désormais, qui cible une seule personne, qui vont aller chercher cet élément perturbateur qu'ils ont ciblé au préalable, et puis qu'ils ramènent ensuite. Voilà comment ils opèrent. Et vous voyez sur ces images donc ce cordon de CRS qui se redéploie pour permettre derrière, effectivement, au cortège d'avancer pas à pas.
Merci beaucoup Vincent Fandège pour le commentaire de ces images. 1000 personnes, on y revient, Pascal Bitopanelli. Ça vous paraît à peu près conforme à ce qu'on a pu voir? On disait, hein, c'était plus conséquent que les manifestations passées. Mais 1000 personnes, effectivement, là, on serait passé du simple au double par rapport à ce qu'on avait envisagé tout à l'heure.
Oui, ça me semble conforme d'une part à la photographie instantanée qu'on a sur nos écrans depuis tout à l'heure. Et par ailleurs... au code de lecture qu'avaient les services de renseignement, qui prévoyait de 400 à 800 ultra-jaunes et de 300 à 800 activistes de gauche. Donc on est à peu près à 500-500. On est sur la norme de ce qu'on attendait. Et apparemment, de ce que je vois, on voit des barrages d'arrêt fixe fermés et les braves qui sont redescendus en profondeur. Les interpellations ont été faites, donc on revient un peu à l'équilibre en attendant que ça reparte sur d'autres points, parce qu'avec 1000 individus, je pense que les tensions ne sont pas terminées.
C'est pas fini, et non. Ça sera peut-être encore plus le cas, Porte d'Italie.
Oui, ça m'étonnerait qu'ils s'en aillent comme ça, là, ils sont
c'est
très radicaux. Oui. Je pense que l'étincelle va durer jusqu'à ce soir.
Eh bien, vous la voyez, la place d'Italie, j'ai dit Porte d'Italie, bien sûr, c'est Place d'Italie, face au cinéma, avec l'avenue d'Italie qui part de là. Et vous voyez déjà un petit peu de monde qui attend. Mais effectivement, le cortège est encore bien loin, puisque, a priori, c'est jusqu'à 19h hein, que cette manifestation est prévue dans ce périmètre. On est à peu près, vu l'état des choses au tiers du parcours, a priori, si on est encore aux alentours de Port-Royal et que la mobilisation progresse, la manifestation progresse très lentement, ainsi que nous le disait Vincent Farandèche tout à l'heure. Mais bon, on voit quand même ces gens qui marchent. On est en différents points du cortège, là. On a plusieurs équipes, donc difficile de savoir précisément l'image qui nous parvient en ce moment. Mais en tout cas, voilà, les forces de l'ordre aussi bougent de concert, toujours le long du boulevard du Port-Royal, et progressent à la rencontre toujours de ces éléments perturbateurs pour tenter de les extraire hein, mm-hmm. pour certains. Je ne sais pas si l'une de nos équipes est sur place, Jeanne Cancard peut-être, ou Michael Dos Santos, qui lui aussi a progressé sur ce parcours et qui, en fin de cortège, Michael, vous avez constaté les dégâts. Hein, une fois le passage du gros des manifestants, bah, vous voyez hein, tout ce qui jonche le sol désormais et qui a pu servir de projectile.
Effectivement, on est plutôt à la fin du cortège et les images que l'on peut voir ici sont bien différentes hein, de ce qu'ont pu voir mes camarades qui sont eux devant. Ici, pas d'affrontement. Tout ce que l'on a pu voir, c'est bien évidemment les stigmates des affrontements qui ont eu lieu entre la police et donc ces personnes, du mobilier urbain qui a pris feu, des poubelles en feu, des bris de glace aussi qui concernaient les panneaux publicitaires ou encore des abribus. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici à l'image, il y a une danse hein, qui est en train de se faire en ce moment même. Donc un esprit beaucoup plus festif, beaucoup plus calme. Et d'ailleurs, même les manifestants ont un profil différent. Ici, il y a des personnes, des actifs, mais aussi des mamans. On a pu voir des poussettes, des papas qui portaient également leur bébé. Donc on est vraiment dans une ambiance bien différente de ce que l'on a pu voir en début de cortège.
Et en effet, cette image qu'on vous doit, elle tranche nettement avec... avec les autres points de vue, les autres angles de nos équipes tout au long du cortège. Revenons un petit peu au fond, puisque là, on est dans un moment de creux, comme dirait Pascal Vitopanelli. Les syndicats qui sont à la manœuvre, ils ont un agenda, évidemment, social, mais ils ont aussi, Éric de Rilmatten, un agenda politique. Alors, on a beaucoup dit de Laurent Berger qu'il était très radical dans ce mouvement, et plus que d'ordinaire, puisque maintenant, il soutient... les blocages, ce qui, a priori, n'est pas la philosophie de la CFDT, hein, pour commencer. Et puis, du côté de la CGT, on voit aussi un Philippe Martinez qui s'est radicalisé dans le discours parce qu'il y a un agenda à gauche pour des élections internes au syndicat, à la CGT, et qui arrive là.
Bah, d'ailleurs, si vous voulez, tout à l'heure, dans son discours, hein, Philippe Martinez, on sentait qu'il était fatigué, il est à bout. Hein. On l'a connu quand même plus offensif. Et là, aujourd'hui, alors, il faut bien quand même faire la différence entre CFDT et CGT. La CFDT, tout à l'heure, lorsque Laurent Berger a parlé, on sentait qu'il ne voulait pas une France à genoux, qu'il ne voulait pas une France bloquée, qu'il ne voulait pas une France paralysée. Il l'a dit, quand on a posé la question, est-ce que vous allez faire des grèves qui vont se multiplier, il a répondu, ce qu'on veut, c'est trouver d'autres formes de manifestation. Ça, c'est un point très important. Et là, il se dissocie un peu, justement, de la CGT, qui, au contraire, veut passer la vitesse supérieure. En tout cas, c'est ce que dit Philippe Martinez. Passer la vitesse supérieure, ça veut dire quoi ? Multiplier des blocages, ça peut être les raffineries, ça peut être les ports, ça peut être justement tout ce qui est service public, la SNCF, la RATP, où la CGT parfois est forte. Voilà, et donc il ne faut pas oublier que quelques grévistes de la CGT, on l'a vu lors des vacances de Noël, pouvaient bloquer des dépôts, pouvaient bloquer des raffineries. C'est ça la vraie question. Après, est-ce que les grévistes ont les moyens, ou en tout cas ces manifestants, ces mécontents de la CGT sont capables de tenir le coup ? Pas sûr, parce qu'on entendait tout au long de l'après-midi des témoignages, notamment chez Lélie Mathias dans l'émission La Parole aux Français, qui disaient, bah, écoutez, oui, mais nous, on est contre la réforme des retraites, mais on n'a pas les moyens de faire la grève tous les jours. Je rappelle que c'est 6,50 € ou 7 euros, si je ne me trompe, d'indemnité par heure non travaillée. 7 euros, vous voyez, c'est quand même largement en dessous du SMIC horaire. Donc il faut quand même avoir les moyens pour tenir le coup. Et même si les syndicats qui ont des cagnottes aident les salariés en grève, ça ne remboursera pas, ça ne compensera pas la perte de salaire.
Alors Philippe Martinez qui disait c'est une mobilisation historique et qui nous a dit un petit peu plus tôt, on va l'écouter, ça va se généraliser, vous allez voir ce que vous allez voir, écoutez.
Après cinq journées de mobilisation très importante, comme il n'y a pas de réponse du gouvernement, bah aujourd'hui c'est une nouvelle étape avec la plus grosse mobilisation depuis le début et puis des grèves qui vont se généraliser dans beaucoup d'endroits.
Alors Jean Messia, la colère est là certes, mais à quel moment la lassitude, y compris pour les usagers de la route, les usagers des transports, si ça venait à durer une semaine, deux semaines, trois semaines, la lassitude peut-elle finalement venir à bout du combat initial?
Bah, c'est ce sur quoi parie le gouvernement, en fait. C'est pas sûr qu'il soit exaucé. En tout état de cause, Martinez, lui, il joue un rôle d'équilibriste, parce qu'il doit en même temps garder une mobilisation raisonnable, on va dire, hein, tant en nombre qu'en qualité, parce qu'on sait très bien que les Français, s'ils peuvent être en colère, ont aussi horreur de la chienlit. Ils ont horreur du désordre, ils ont horreur de ces actions de vandalisme que nous voyons à l'écran, même si ils sont en colère en raison de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la réforme des retraites et puis une souffrance sociale plus générale et plus diffuse. Mais il est aussi, le même Martinez, dépassé d'une certaine façon et par sa base et par les prétendants à sa succession, qui sont sur une ligne beaucoup plus radicale que lui. Et donc, lui, il est au beau milieu de tout ça et il est obligé de jouer un numéro d'équilibriste entre l'ensemble de ces données, ce qui n'est pas évident.
On reviendra au jeu législatif tout à l'heure, mais on va aller dans le cortège parce que, vous savez, quand nos reporters ont quelqu'un au micro, on essaie d'aller directement vers eux pour ne pas qu'ils les perdent dans la foule. En l'occurrence, Miquel Dos Santos, qui est avec une manifestante, vous allez sans doute lui demander eh bien, dans quel état d'esprit et jusqu'où elle est prête à aller, au fond, dans cette mobilisation.
Eh bien, écoutez, posons-lui la question puisqu'on est en direct avec Viviane, Violaine. Merci en tout cas d'être avec nous en direct sur CNews. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi c'est important pour vous d'être ici pour cette sixième journée de mobilisation?
Il est important de dire que moi, je ne peux pas travailler jusqu'à 64 ans. Je ne pourrai pas, de toute façon. Vu l'emploi, vu les pressions au travail, vu les conditions de travail, je ne veux pas. Sinon, je sais que je ne tiendrai pas et j'ai envie de faire autre chose de ma fin de vie.
Voilà. Vous êtes chef d'établissement?
Je suis chef d'établissement dans un collège. Enfin, j'ai travaillé en collège et en lycée dans l'académie de Créteil. Le travail est vraiment très, très dur. Je ne me plains pas, mais c'est vraiment tuant au sens le plus propre du terme. D'ailleurs, les chefs d'établissement sont dans la manifestation. Donc voilà, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas tenir. Et j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire d'autres choses de ma vie. Il n'y a pas que mon travail.
Alors, aujourd'hui, il y a deux ambiances dans cette manifestation. À l'arrière du cortège, c'est plutôt calme, plutôt festif, comme on peut l'entendre d'ailleurs avec la musique qui est derrière moi. Devant, il y a des confrontations entre la police et des casseurs. Est-ce que vous avez la sensation de vous faire voler aujourd'hui, ce jour de manifestation?
Non, moi je suis là, je ne me fais rien voler du tout, je suis présente, je dis ce que j'ai à dire. Voilà, je suis une femme, j'ai été pénalisée sur ma carrière en tant que femme, indiscutablement. Je serai pénalisée sur ma retraite en tant que femme, indiscutablement. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire, je suis là. La police fait son travail, j'imagine, ils vont les bloquer, ils vont faire ce qu'il faut faire. Moi je fais le mien, je dis ce que j'ai à dire, voilà.
Voilà, on vient d'écouter le témoignage de cette manifestation qui, comme vous l'avez entendu, n'a pas cette sensation de se faire voler la manifestation. Il est vrai qu'ici, à l'arrière du cortège, c'est pour le moment très très calme.
Merci beaucoup, Mickaël, pour ce témoignage. Une femme pénaliste, ta carrière et ta retraite. J'aimerais qu'on parle de ce qui se passe du côté du Parlement, puisque vous êtes députée Renaissance de Saône-et-Loire, je le rappelle, Louis-Marguerite. J'ai lu quelque part qu'Aurore Berger avait appelé les députés à faire bloc. Après, le doute émis par certains, je crois qu'il y en a trois, dont Barbara Pompili, quand même, non des moindres, qui disent bah, « Nous, on ne va peut-être pas voter en l'État, on n'est pas tout à fait d'accord. » Donc là, elle dit « Hop, il faut resserrer les rangs, Aurore Berger, parce que sinon, il y a des voix qui vont se perdre dans la nature au moment final. »
Elle a tout à fait raison. Moi, je soutiens totalement et sans ambiguïté la position qui a été exprimée par notre président ce matin dans une réunion à laquelle j'ai évidemment participé. Et on a été quelques-uns, même un certain nombre, à intervenir derrière elle pour soutenir, dont moi d'ailleurs. Moi, quand je me suis présenté aux élections, d'abord, je suis engagé dans l'action publique depuis une quinzaine d'années et d'ailleurs, plus de façon, dans ce mandat électif depuis 9 mois, enfin un an que je travaille le terrain. Et j'ai jamais menti à mes électeurs quand ils m'ont posé la question, est-ce que vous allez voter cette réforme des retraites? Il y en a même un dans une réunion publique qui m'a dit qu'il était prêt à voter pour moi si seulement si je ne votais pas la réforme des retraites. À l'époque, on savait pas combien ça allait être, 65 ans, on n'avait pas les dates, le texte n'était pas. D'ailleurs, c'était juste une idée dans un programme. Et je l'ai invité à s'abstenir, voter blanc, et le cas échéant voter pour un ou un autre de mes concurrents, mais j'ai été assez honnête. Et quand on s'est engagé sur une ensemble programmatique qu'on n'a pas forcément d'ailleurs très bien toujours détaillé pendant la campagne. On a accusé la campagne d'ailleurs d'être un peu courte, c'est vrai, on pourrait revenir dessus à l'envi. Mais je le dis,
ça accrédite la thèse que vous votez tous comme un seul homme et qu'il n'y a pas de libre arbitre.
Non, mais il y a eu
le. Parce que la réforme, vous ne la connaissiez pas à l'époque.
Non, c'est vrai.
Donc quoi qu'on. D'accord.
Et d'ailleurs, c'était à l'époque, c'était 65 ans.
Donc ce que vous nous dites, c'est que quoi qu'on mette dans le texte, vous l'auriez voté.
Pas du tout. C'est pas ce que je dis. Il y a eu tout un travail entre le moment où on s'est mis dans le débat public. À la présidentielle et aux législatives, même si le débat a été un peu court, j'en conviens. Et le moment où on a un texte qui arrive à l'Assemblée, et le moment où on a le texte qui arrive au Sénat, il y a eu des évolutions dans le texte. Elles ont été significatives. C'est entre 5 et 7 milliards, selon les estimations, de mesures nouvelles, de droits nouveaux qu'on donne. Alors on peut toujours considérer que c'est pas assez. Je veux bien l'entendre. On peut avoir un débat sur le curseur, le niveau d'ambition, peut-être. Et peut-être qu'un jour, il faudra aller encore plus loin. Sans
certains
doute.
Certains disent, à force d'aménagement, ça tue le propos du retour à l'équilibre.
Il
ne
faut pas vouloir trouver son contraire. J'entends. Mais il y a pas rien dans cette réforme. Je peux pas laisser dire qu'il n'y a pas eu ce débat. Et je ne dis pas que le débat est simple, et je ne dis pas que le débat est facile, et puis on n'est pas sourd, on entend bien, on reçoit des mails, on reçoit des appels. Moi, j'essaie d'appeler à peu près tous ceux qui me sollicitent, y compris pour les entendre, y compris pour voir s'il n'y a pas des situations qu'on peut résoudre. Mais je dis simplement, c'est que l'action publique, la politique, l'action publique, qu'on soit élu ou pas, c'est aussi porter des choses qui soient responsables. Et la responsabilité, c'est bien sûr de protéger les plus faibles de ce pays. On l'a fait pendant la crise Covid, on l'a fait pour l'énergie, et il faut sans doute le faire encore plus, de façon encore plus massive. Mais c'est aussi d'avoir le souci d'équilibre de ce qui, au fond, est le joyau et de ce à quoi nous sommes tous attachés. Donc voilà l'enjeu pour nous. Moi, je la voterai évidemment sans ambiguïté. Je l'ai dit aux camarades de mon groupe, à mes collègues de mon groupe. Aurore Berger l'a rappelé. Je soutiens évidemment totalement sa position.
Jean Messia, pour la réaction à cette volonté de voter quand même coûte que coûte, parce qu'à un moment, il dit qu'il faut y aller. Et lui, il était même pour la
35
ans, si je comprends bien.
Alors, si vous voulez, il y a un double rideau. Il y a l'argument qui consiste à dire en fait, le référendum sur cette réforme des retraites a déjà été fait. Ça s'appelle la présidentielle. Et donc, comme les Français ont voté pour Emmanuel Macron, sachant que dans son programme, il y avait déjà une velléité assez claire d'une réforme en ce sens, du coup, l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République a été... est considéré aujourd'hui par la majorité comme une forme de blanc-seing donné par les Français pour toutes les réformes envisagées par Emmanuel Macron. C'est un peu court comme raisonnement parce que en général, les Français, ils ont tout un tas de raisons de voter pour un président. Là, en l'occurrence, beaucoup ont voté plutôt contre Marine Le Pen qu'en faveur d'Emmanuel Macron. Et donc ceux-là doivent porter évidemment les conséquences de leur vote. Mais vous, en tant que macroniste, vous ne pouvez pas considérer qu'à travers cette élection... tout le programme d'Emmanuel Macron, y compris cette réforme, a été en quelque sorte prévalidé.
C'est pas ce que j'ai dit.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc le second rideau, c'est le vote des députés. Alors, évidemment, les députés, ils sont pris un peu entre deux feux. C'est-à-dire qu'il y a cette réforme et il y a la loyauté que doivent les députés à leur majorité et à la réforme que leur majorité présidentielle a prise. Et puis, il y a le terrain. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la France est opposée à cette réforme dans une très grande majorité. Je crois que c'est assez rare d'avoir à ce point un consensus contre une réforme. Je crois qu'on doit être aux alentours de 70% en fonction des sondages, sans parler des mobilisations dans la rue. Donc, si vous voulez,
contre la réforme et pour la mobilisation aussi, c'est important de le souligner.
Exactement. Donc, si vous voulez, à un moment, à la fin de la journée, un député, son but, c'est aussi de pouvoir être réélu. Or, si la réforme est impopulaire, ils ne peuvent pas en même temps voter la réforme et avoir une forme de loyauté vis-à-vis de leur majorité et de l'autre côté, aller à l'encontre de la volonté de leurs électeurs sur le terrain parce qu'ils risquent leur réélection.
En circonscription, vous n'êtes pas un petit peu mais gentiment,
bien sûr que si.
Par vos électeurs.
Mais je ne me pose jamais la question de savoir si les gens ont voté pour moi. Jamais. y compris quand je rencontre des maires qui sont dans la plus grande majorité, d'ailleurs sans étiquette. J'en ai rencontré trois encore hier dans mes communes rurales de la côte sud chalonnaise. Pardon. J'ai rencontré l'intersyndicale du bassin minier. Ils étaient tous opposés à la réforme. J'étais seul face à 13 ou 14. On s'est écoutés respectueusement. Je les ai écoutés pendant une heure. J'ai essayé d'apporter des éléments de réponse. Il y a un certain nombre de choses de vision.
Je
voudrais juste
répondre.
Les Français ont besoin d'un psychologue, ils ont besoin de gens qui agissent.
Non, mais d'accord. Bah alors, la prochaine fois, présentez-vous aux élections, voilà. Et puis on en reparlera.
Je ne suis pas là-dedans.
Je voudrais répondre à un point parce qu'il dit le but d'un député, c'est d'être élu. C'est assez mal me connaître que d'imaginer que tous les jours, j'essaie de porter des politiques publiques avec mes collègues sur le terrain, à Paris, dans les propositions de loi, et je ne pense jamais à ma réélection.
Ah bon ?
Non,
je
vous le confirme. Non, je ne pense pas être le seul, et je vous le confirme. Le seul objectif que je me suis fixé, c'est de me dire que dans 4 ans, me représenter en disant voilà ce qu'on aura fait pour le territoire, sur un certain nombre de projets qu'on aura portés, l'hôpital de Montcelles-les-Mines, on peut en citer beaucoup d'autres, et qu'on aura fait des bonnes réformes. Et je cite d'ailleurs, parce qu'on pourra en reparler, j'espère qu'on en reparlera sur ce plateau, les syndicats, les organisations professionnelles comme les organisations syndicales ont travaillé et ont signé un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Voilà un sujet qui doit nous rassembler. C'est la preuve que le dialogue social, il existe. Alors c'est un sujet qui est peut-être moins visible que celui des retraites qu'on est en train de traiter aujourd'hui, parce qu'il est cristallisant, parce que les retraites, ça touche à l'intime, ça touche à sa propre vie. La vie professionnelle, c'est 70% du temps qu'on passe dans le travail. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas des choses qui n'avancent pas, y compris des choses qui sont consensuelles. Donc moi, c'est le seul objectif que je me suis fixé. Et je vais vous dire une chose, je sais même pas si je verrai si j'aurais envie de me représenter.
Vous êtes un vrai magicien, alors donc vous n'avez pas pensé à votre élection, vous avez été élu quand même.
Merci d'être à ma place. Je vous confirme que je me suis présenté. Merci beaucoup du compliment. Je me suis présenté avec un certain nombre d'idées pour le territoire. Sous l'étiquette d'Emmanuel Macron, que le président que je soutiens et que je soutenais d'ailleurs dans mes précédentes fonctions. Et puis on essaie de faire du mieux qu'on peut parce que c'est tout ce qui nous anime dans notre action publique.
Il nous reste quelques minutes et on va se rendre au Sénat parce que vous le savez, c'est là que s'écrit l'histoire du texte en ce moment. Bonjour Élodie Huchard. Les sénateurs qui se penchent sur ce fameux article 7, c'est ce qui était prévu. Ils ont accéléré la cadence pour y arriver aujourd'hui. Ça pourrait prendre beaucoup de temps, on pourrait être occupé jusqu'au milieu de la nuit. Hein.
Oui, parce que Nelly, en fait, on n'est pas encore à l'étude de l'article 7, on est encore à l'article précédent, l'article 6. Alors effectivement, il y a eu une forte accélération cette nuit. En 5 jours de débat, les députés n'avaient adopté que 2 articles. Et bien, en quelques heures cette nuit, ils en ont adopté 3 supplémentaires. Ils ont siégé jusqu'à environ 3 heures du matin. Gérard Larcher, président du Sénat, est revenu. Et effectivement, il y aura le vote de l'article 7 sans doute dans la nuit. Mais on nous dit peut-être 4, 5, 6 heures du matin pour les moins optimistes. On le savait, la gauche en avait fait une revendication. Elle voulait attendre que passe cette journée de blocage pour aller au vote de l'article 7. Il y aura donc, à l'inverse de l'Assemblée, bel et bien un vote ici au Sénat. En revanche, maintenant, la question qui subsiste, c'est les sénateurs iront-ils ou non au bout du texte ? Il restera encore 13 articles à étudier. Et pour un certain nombre d'articles, notamment jusqu'à l'article 14, ils sont importants pour la droite parce qu'elle a déposé un certain nombre d'amendements pour promouvoir des avancées sociales, nous disent les sénateurs du groupe. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Gérard Larcher, le président, va réunir demain les présidents de groupe et il devrait commencer à utiliser tous les moyens pour accélérer le texte parce que le président du Sénat, lui, compte bien aller jusqu'au vote final du texte.
Et vous nous rappelez l'échéance, le coup près pour le vote, c'est le 17.
Eh bien, les sénateurs ont jusqu'à dimanche minuit, pas plus. Et puis, effectivement, on rappelle aussi qu'il y a quand même demain, par exemple, la séance ne commence qu'à 17h. Donc, il y a aussi quand même des journées où on perd pas mal de temps.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Élodie Huchard en direct du Sénat où on va plancher jusqu'à très tard dans la nuit du côté des sénateurs. Il y a quand même une info qui circule, pardon Louis-Marguerite d'insister, mais les députés Renaissance qui ne voteraient pas en faveur du texte seraient exclus du groupe. Ça commence à monter un peu les menaces d'exclusion à l'encontre de Barbara Pompili et au moins 2 autres députés. C'est-à-dire que là, ça commence à faire un petit peu désordre quand même.
Non mais je rappelle, et c'est le message qui a été passé ce matin, et on en échangeait encore à l'instant avec nos collègues députés, pas une voix du groupe Renaissance ne manquera sur ce texte. C'est un texte qui est extrêmement important, ce ne sera pas la réforme la seule réforme importante du quinquennat, il y en aura d'autres. Et ce n'est pas parce qu'on aura voté cette réforme qu'on s'arrêtera là. Il y a beaucoup de sujets, les sujets du plein emploi, mais c'est une réforme évidemment importante.
Il y a un gros morceau derrière, c'est l'immigration aussi.
Il n'y aura pas aucune voix qui manquera. Et ouais. On sera tous rassemblés pour poser cette réforme qui est difficile, qui demande des efforts à beaucoup, qu'on a essayé de travailler pour la rendre la plus équilibrée possible, si je puis dire, mais qui est importante et qui rendra service à la France.
Le gouvernement, Éric, peut-il encore faire des concessions ? On voyait cette dame qui disait « Moi, je suis femme, je vais être de toute façon pâtir de, du traitement qui me sera réservé à la retraite. Il y a encore des choses à faire peut-être sur, sur ce plan.
Le gouvernement a fait trop parce que du coup, si vous voulez, maintenant on commence à se rendre compte qu'il y a eu tellement de mesures d'accompagnement adoucissantes, comme on pourrait dire, qu'elles coûtent cher. Et qu'à terme, on peut se demander si ça continue comme ça, si cette réforme sera vraiment utile sur le plan financier. Il ne faut pas oublier que c'était il y avait 13 milliards de déficit. On espérait dégager 17 milliards avec cette réforme qui doit rentrer en...
je veux dire, les détracteurs de la réforme 2030, disent qu'on n'était pas en déficit.
Oui. Bah, c'est-à-dire que si le déficit devait venir, on parle de 2030, ce n'est pas juste l'année prochaine.
Mais 2030, hein, c'est pas demain.
Oui, peut-être. Bon, enfin, quand on est politicien, on voit plus loin. Enfin, en tout cas, j'espère pour eux. Non, mais, et donc, la question, c'est qu'il y avait une marge de manœuvre de 4 milliards, en gros. Sauf que cette enveloppe, elle est, si je ne me trompe, déjà quand même largement dépassée.
C'est là-dessus, Jean Messia, que...
C'est l'équilibre, on l'a toujours dit, et là, je pense qu'on est dans un point d'équilibre, en effet, avec des mesures qui donnent plus de droits et des mesures qui permettent d'augmenter le volume de...
C'est là-dessus que ça achoppe. Si on revient à la philosophie du texte, c'est entre ceux qui sont dans une sur-anticipation, et on va dire qu'ils sont plutôt pessimistes et qui veulent absolument border le truc avant, ou se conformer aux institutions européennes, c'est ce qu'on reproche aussi à Emmanuel Macron de ce point de vue-là. Et puis ceux qui disent, on a le temps, il n'y a pas péril en la demeure, attendons de voir aussi comment les choses évoluent sur le plan économique.
Non, mais si vous voulez, il y a plusieurs absurdités dans cette histoire. D'abord, les économies dont le gouvernement excite pour forcer le passage de cette réforme sont une goutte d'eau dans l'océan des dépenses publiques que le gouvernement a consenti depuis 2 ans maintenant, que ce soit dans le quoi qu'il en coûte, dans le bouclier tarifaire, etc. Donc on ne peut pas d'un côté expliquer aux Français qu'il y a de l'argent magique qu'on distribue, alors certes pour de bonnes raisons, et venir sur une goutte d'eau dans l'océan, vous expliquer que c'est l'urgence absolue du moment qu'il va falloir trouver cet argent-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on applique la réforme des retraites dans sa première mouture, que cela n'occasionnerait pas un équilibre pérenne du système par répartition. Oui. Et Olivier Dussopt lui-même l'a reconnu, puisqu'il dit que même si la réforme avait été votée dans l'État, je crois qu'il a évoqué la date de 2030 pour une autre réforme, pour relancer un nouvel équilibre. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas attaqué à l'infrastructure du système par répartition, c'est-à-dire l'emploi et la démographie. Donc voilà où on en est. Et puis, évidemment, les mensonges du gouvernement sur les 1 200 euros, j'en passe, c'est des meilleurs.
Il nous reste 2 minutes avant de conclure cette émission et passer la main à Punchline. On va donc retrouver Mickaël Dos Santos quelque part dans le cortège pour une dernière intervention dans 90 minutes info. Vous êtes là où tout se passe plutôt bien, si l'on en juge ces images.
Oui, tout se passe très très bien ici en fin de cortège. On est boulevard du Port-Royal exactement. Et c'est une image finalement qui illustre un peu ce que l'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire un esprit très festif avec ce char, un DJ, des manifestants qui dansent, qui chantent. Et puis sur notre gauche, vous allez le voir, ce poteau de signalisation qui a pris feu, qui a été incendié par les casseurs qui sont eux plus à l'avant du cortège. Et c'est donc un poteau de signalisation qui a pris feu après les affrontements entre la police et des casseurs. Juste derrière moi, on me dit très justement arrêtez peut-être de filmer ça ou pas d'ailleurs, mais c'est ce qui s'est passé. On me dit arrêtez de filmer parce qu'on ne veut pas que l'image de la manifestation ce soit ça, ce soit de la casse, des affrontements entre casseurs et policiers. Voilà l'ambiance en tout cas ici en fin de cortège à Paris.
Merci beaucoup et on se quittera effectivement sur ces images de danse de certains de ces manifestants sur une petite musique festive. Voilà, c'est l'image au fond qu'on voudrait retenir même si on se bat pour des choses sérieuses. Voilà, c'est toujours fait dans l'esprit et la bonne humeur affichée. Ça contraste avec ce qu'on vous a fait vivre malheureusement en direct cet après-midi. Merci néanmoins Pascal Vitopanelli d'avoir commenté ces images avec nous. Merci à vous Louis-Marguerite d'être passé sur ce plateau. Vous poursuivez le travail législatif. Merci Jean Messia et merci à Éric de Ridmaten. Vous l'aurez compris dans quelques instants, Laurence Ferrari, Punchline, vous vivrez la fin de ce cortège parisien, de cette mobilisation du 7 mars en sa compagnie. Je vous dis excellente fin d'après-midi sur notre antenne. Et bien sûr, à demain, 15h30. Au revoir.